oublié de vous retrouver en ce lundi 4 octobre. Et tout de suite, le flash d'information de cet après-midi. En Israël, une cérémonie commémorative s'est déroulée ce lundi au Mont Herzl à Jérusalem à l'occasion du 5e anniversaire de la mort de Shimon Peres, le 9e président de l'État d'Israël et également le 8e Premier ministre. L'actuel président Yitzhak Herzog, le Premier ministre Naftali Bennett et le chef de l'opposition Benjamin Netanyahou étaient tous trois présents à cet événement ce matin, mais selon le protocole, les seuls à pouvoir s'exprimer sont le chef de l'État et le Premier ministre, chose qu'ils ont tous les deux fait, tandis que Naftali Bennett a souligné que Shimon Peres avait toujours été présent et prêt à agir. Yitzhak Herzog a de son côté salué la polyvalence de l'ancien président israélien. Rencontre israélo-palestinienne. À présent, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a accueilli hier soir une délégation ministérielle israélienne à Ramallah. Il s'agit de la deuxième rencontre officielle de ce type en l'espace de quelques semaines. En effet, les ministres israéliens de la Santé Nissan Horowitz et de la coopération régionale Issaoui Frej, ainsi que la députée Michal Rosin, tous trois issus du parti d'extrême gauche Meretz, se sont rendus en Judée-Samarie au siège de l'autorité palestinienne. À cette occasion, Nissan Horowitz, qui est en fait le leader de Meretz, a déclaré que son parti s'efforçait de maintenir en vie la solution à deux États au sein du gouvernement de Naftali Bennett, qui lui s'y oppose. Allez, on va parler de l'affaire Pandora Papers maintenant. Plusieurs pays et dirigeants ont rejeté les révélations de cette vaste enquête du consortium international des journalistes d'investigation qui accuse plusieurs centaines de responsables politiques et leurs proches d'avoir dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore, notamment à des fins d'évasion fiscale, donc les fameux Pandora Papers. Cette enquête publiée hier, à laquelle ont collaboré 617 journalistes, s'appuie sur quelque 11 900 000 documents provenant de 14 sociétés de services financiers et a mis au jour plus de 29 000 sociétés offshore. Côté belge, 1217 personnes de nationalité belge ou résidant en Belgique ont été identifiées. Et il faut savoir que 33 de ces noms figuraient déjà dans les Panama Papers. Cette fois, on tentera de mieux comprendre cette enquête avec le journaliste Joël Matriche lors du Grand Journal de 18h. C'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le Grand Journal de la rédaction. Et d'ici là, je vous laisse en très bonne compagnie avec votre émission du lundi, Cherchez l'erreur avec Isaac Franco et Richard Lopes. C'est maintenant, à tout à l'heure.
Alors, bonjour Paul à la technique et bonjour Isaac.
Bonjour Richard, bonjour Paul et bonjour tout le monde.
Alors Isaac, on a de nombreux dossiers à traiter aujourd'hui, des deux côtés de l'Atlantique, de nombreux dossiers aux États-Unis et quelques dossiers européens, les résultats évidemment des élections allemandes, les élections françaises qui ne sont plus très éloignées, et puis également le congrès du Labour Party en Angleterre. Et puisqu'il temps nous le permet, on parlera également un petit peu d'Israël, du Moyen-Orient, des discours de Naftali Bennett et de Abbas aux Nations Unies. Voyons si le temps nous le permet. Mais démarrons tout de suite par les États-Unis parce que l'actualité est riche de ce côté-là. Plusieurs dossiers sont intéressants à traiter. Peut-être le premier, c'est l'intervention de Kamala Harris, ou plutôt sa non-intervention, puisque dans le cadre d'une visite qu'elle effectuait dans une université californienne, l'une des étudiantes a jugé bon de comparer Israël à un état d'apartheid, a utilisé les mots de nettoyage ethnique, enfin la logorée habituelle de ce type d'intervention. Et plutôt que de la contredire, elle a jugé utile plutôt de lui dire, de la féliciter pour avoir dit ce qu'elle avait sur le cœur et que c'était ça qui était important, c'était de pouvoir s'exprimer ouvertement et librement. Et voilà un petit peu à quoi s'est limitée la réaction de Kamala Harris par rapport à cette étudiante américaine, Isaac.
Oui, ça, c'est un grand scandale. Pas tout de suite aux États-Unis. En Israël, certainement, parce que l'absence de réaction de la vice-présidente à l'interpellation de cette étudiante qui se réclame de nationalité yéménite et iranienne, et elle précisait bien « je ne suis pas américaine et je ne tiens pas à l'être », elle critiquait Israël, la chargeant pas seulement de l'accusation d'apartheid, mais d'épuration ethnique et de génocide. Et on a entendu la vice-présidente américaine lui répondre que, plutôt que de lui dire que c'est un mensonge absolu, qu'on peut difficilement passer de 955 000 Palestiniens en 1967 à 5 millions, et parler de génocide en même temps et d'épuration ethnique, dire que c'était un mensonge factuel parfaitement inacceptable, d'autant qu'il s'adressait à un allié privilégié de son pays, dont elle est, je le rappelle, vice-présidente. Elle a insisté sur la nécessité d'entendre chaque voix et que la voix de cette étudiante devait être entendue. Sa vérité, et c'est le mot qu'elle a employé, sa vérité devait être prise en compte. Alors, après toutes les réactions négatives qui ont suivi cette non-intervention, ou plutôt la réponse pour le moins controversée de la vice-présidente en Israël, il y a eu enfin une mise au point de Kamala Harris, mais seulement aux organisations juives américaines qui avaient interpellé la vice-présidente sur la nature de sa réponse pour le moins critiquable. Mais elle ne s'est pas adressée à la nation, elle ne s'est adressée qu'aux organisations juive. Et c'est ça qui est difficile. On a du mal à entendre. Kamala Harris n'a pas un record, n'a pas un historique d'hostilité déclarée à l'égard de l'État d'Israël. Elle passe même sur ce sujet pour être plutôt pro-israélienne et pour la relation entre son pays et l'État juif. Donc on comprend mal la réaction, parce que pendant que s'exprimait cette jeune étudiante, on voyait la vice-présidente hocher de la tête dans un geste d'approbation. Alors, toutes les vérités sont bonnes à entendre, c'est certain, mais mettre cette accusation de génocide, d'épuration ethnique et d'apartheid sur le compte de vérité paraît pour le moins critiquable.
Tout à fait. Alors, deuxième dossier américain.
Oui.
C'est celui de la tentative de faire passer certaines lois de financement. On sait qu'il y a une première loi d'infrastructure, d'investissement en infrastructure, les routes, les télécoms, etc., de 1 200 milliards de dollars. Ce projet de loi a été voté de manière bipartisane au Sénat et il est maintenant dans la Chambre des représentants. Et il y a un deuxième projet de loi de 3 500 milliards de dollars, certains disent même que ce chiffre aurait être un montant de 5 000 milliards de dollars, mais qui lui est un projet de loi qui est surtout soutenu par l'aile radicale, les soi-disant progressistes du parti démocrate, le Squad, Bernie Sanders et les autres, qui est une loi qui a pour vocation de faire passer tous les éléments du programme de Bernie Sanders, en fait, finalement. Évidemment, ce projet de loi-là n'a, pour ainsi dire, presque aucune chance de passer au Sénat selon la procédure habituelle, hein, avec la possibilité pour les Républicains, puisqu'on rappellera qu'ils sont 50-50, de faire le fameux filibuster, donc qui obligerait les démocrates à obtenir 10 voix républicaines, raison pour laquelle ils essaient de faire passer cette loi par une procédure budgétaire dite de réconciliation qui permettrait effectivement d'éviter d'avoir 60 députés ou 60
de devoir avoir 60
et qui pourrait passer avec 50 uniquement.
Voilà. 51.
51 avec la voix de Kamala Harris dont on vient de parler.
Tout à fait.
Donc cette deuxième proposition n'a pas encore été votée au Sénat et encore moins à la Chambre des représentants. Pour une raison simple, c'est que elle est prise en otage quelque part par effectivement le mouvement radical, hein, par le Squad et Bernie Sanders, qui refusent de voter la première loi de 1 200 milliards tant qu'il n'y a pas une garantie qu'on pourra voter la deuxième loi de 3 500 milliards. Donc tout le système est bloqué, parce qu'effectivement, les progressistes à la Chambre des représentants sont suffisamment nombreux que pour empêcher le passage de cette loi, mais inversement, les modérés sont également suffisamment nombreux pour empêcher le passage de la loi de 3500 milliards. Donc c'est un échec patent pour l'instant pour Joe Biden, qui avait promis de faire passer ces deux projets de loi, et pour l'instant, ni l'un ni l'autre ne sont passés.
Ah oui, c'est une retraite en rase campagne de Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants, parce qu'elle avait promis de coupler ces deux ces deux bills, ces deux résolutions, ces deux lois ensemble, c'est-à-dire la loi sur les infrastructures, qui, comme vous le rappeliez, a déjà été votée par le Sénat, et la loi de 3500 milliards, sous la pression des radicaux. C'était la promesse de Joe Biden de changer l'Amérique en profondeur, et donc de faire voter ce budget absolument faramineux dès le début de sa présidence. Alors, effectivement, ça fait désordre dans la maison démocrate parce qu'effectivement, il y a un bras de fer au sein même du parti entre l'aile radicale qui pousse à ce couplage entre les 1200 milliards de l'infrastructure aux 3500 milliards destinés à réduire les inégalités. Et de l'autre côté, vous avez les modérés qui disent « on ne peut pas laisser filer le déficit budgétaire, c'est impossible, on ne va pas voter ces 3500 milliards ». Et donc on est pour l'instant dans une impasse, c'est-à-dire que Nancy Pelosi a décidé de ne pas présenter cela. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de travail en interne, dit-elle, pour mettre d'accord les différents membres, les différents courants du Parti démocrate et présenter quelque chose qui permette à Joe Biden de dire qu'il n'a pas été désavoué par la Chambre.
Tout à fait. Et rappelons quand même que la dette américaine s'élève à 28 500 milliards de dollars.
Tout à fait.
Je crois que c'est 10 fois plus que ce qu'elle était il y a une vingtaine d'années,
je pense.
Ouais. Donc là, il s'agirait de rajouter encore, si on fait la somme des deux, près de 5 000 milliards de dollars.
Oui.
Il faut financer, soi-disant, par des augmentations d'impôts.
Mais enfin, c'est ça. C'est-à-dire que le Parti démocrate est dans une impasse, parce que si c'est voté, il faudra le financer. Il faudra le financer soit par une augmentation d'impôts et dans une année préélectorale, puisque vous savez que l'année prochaine, il y a les élections de mi-mandat, en novembre 2022, ou alors il faut diminuer les frais de fonctionnement.
Ou de la dette.
Mais dans une période où il faut relancer la croissance juste au lendemain du Covid, c'est pratiquement impossible. Donc on voit que le Parti démocrate est pris dans ses propres contradictions.
Alors, troisième dossier intéressant pour les États-Unis, c'est le fameux audit dont on a parlé à plusieurs reprises.
Mm-hmm. En Arizona.
En Arizona, l'audit des élections de 2020. On sait que, en tout cas, les Républicains pensent que ces élections ont été entachées de toute une série d'irrégularités. On rappellera également que l'écart entre Trump et Biden dans trois États critiques n'était que d'environ 40 à 45 000 votes.
42 000, très exactement.
42 000 collectivement sur les trois États.
Sur les trois États qui ont donné la victoire à Joe Biden.
Exactement. Sur environ 155 millions d'électeurs qui ont voté. Et que l'un de ces trois États était l'État d'Arizona, que Biden a remporté avec environ 10 500 votes.
Et en particulier un comté.
Et en particulier dans un comté très important, le comté de Maricopa, où se trouve Las Vegas.
Tout à fait.
Et qui, je pense, compte pour environ 2,1 millions des 5 à 6 millions d'électeurs de l'État. Et donc finalement, un audit a été demandé par le Sénat de Maricopa pour vérifier si effectivement ces irrégularités étaient avérées ou pas. Ça a été très compliqué parce que d'abord, ne fût-ce que pour le lancer, cet audit...
Il y a eu des obstructions de la part des démocrates, énormément d'actions en justice qui ont été diligentées pour l'empêcher.
Pour l'empêcher. Une fois qu'il a démarré, ils ont tout fait pour le dénigrer.
Ouais.
Et ils ont tout fait également pour l'entraver, puisqu'ils ont refusé à plusieurs reprises de fournir toute une série d'informations qui auraient permis aux auditeurs de faire leur travail de manière exhaustive. Bon, enfin, après 3-4 mois de travaux, les résultats ont été finalement publiés, dévoilés et présentés au Sénat de l'Arizona. J'ai écouté pendant 3 heures la présentation de ces résultats. Et c'est assez frustrant parce que finalement, on ne peut pas en tirer de conclusion définitive. On ne peut pas en tirer de conclusion définitive parce qu'ils ont trouvé toute une série d'irrégularités. Mais puisque la partie adverse refuse de collaborer avec eux, ils n'ont pas les moyens d'obtenir une explication dans un sens ou dans un autre concernant ces irrégularités. Et donc, ils pointent les irrégularités sans pouvoir affirmer de manière définitive si...
Et contradictoire.
Et contradictoire si, effectivement, ces irrégularités sont de nature à avoir inversé le résultat des élections. Enfin, pointons quand même qu'ils ont identifié 55 000 bulletins de vote...
Irréguliers.
...qu'ils considèrent comme irréguliers.
Rappelons que dans cet État, Biden l'a emporté pour 10 500 voix de différence.
Juste pour donner quelques petites informations complémentaires, parce que je pense que c'est utile de donner quelques chiffres. Il y a par exemple 34 000 bulletins de vote qui étaient en double, ce qui veut dire 17 000 votes, normalement, qui devraient être invalidés.
Et rappelons encore une fois la différence, 10 500.
23 000 votes pour lesquels on ne trouve pas de résidents à l'adresse au nom correspondant sur, à la signature sur le bulletin de vote correspondant à, la signa, à l'adresse correspondante pour le bulletin de vote, 23 000. Et puis on a encore une quinzaine de milliers d'autres, toute une série d'autres raisons, des gens qui ont déménagé du comté, des morts, enfin toute une série d'autres statistiques qui font qu'environ 55 000 bulletins seraient potentiellement irréguliers.
Alors, c'est une information énorme. C'est énorme. Vous avez 5 fois plus de bulletins de vote irréguliers que le nombre de votes qui ont permis à Joe Biden officiellement d'emporter l'État. Alors c'est déjà troublant, c'est le moins que l'on puisse dire. Et cette réaction des démocrates d'abord d'empêcher cet audit de se tenir, ensuite de faire comme s'il n'existait pas, de ne pas apporter leur contribution pour prouver que ce qui s'est passé en Arizona était bien régulier, était bien transparent, était bien le résultat d'une élection intègre, eh bien vous avez également un silence extraordinaire des médias à propos d'une affaire qui est de dimension, je veux dire, historique. On est ici en train de parler d'une fraude possible, mesurons nos propos. En tout cas, les soupçons sont clairs. Il faudrait pouvoir avoir un résultat contradictoire et donc il faudrait pouvoir avoir ici l'implication des démocrates qui s'y refusent et le silence absolu des médias qui font comme si le résultat de cet audit ne questionnait pas du tout le résultat, non seulement de l'État d'Arizona, parce qu'à partir du moment où vous avez un voile de doute qui pèse sur l'élection dans un État bascule, un swing state comme l'Arizona, eh bien ce voile il s'étend sur tous les États bascules qui ont permis à Joe Biden de l'emporter.
Alors le silence des médias, je mettrai un tout petit bémol sur le silence, parce qu'en fait, ils ont été totalement silencieux sur cet audit pendant les 3-4 mois de son déroulement, mais ils n'ont pas été si silencieux lorsque les résultats ont été publiés. Ils ont tous en cœur expliqué que finalement, les résultats étaient rigoureusement identiques à ce qui avait été officiellement déclaré.
Oui, le recomptage.
Le recomptage. Donc, ils ne se sont basés que sur une information totalement inutile, d'ailleurs, qui était le recomptage des votes.
Et dont on attendait le résultat sans aucune surprise. Il est évident que vous recomptez 10 fois un même nombre de bulletins, vous allez arriver au même résultat. Mais c'est pour mieux passer à l'as, c'est pour mieux entretenir le silence sur la question qui fâche des votes irréguliers.
Voilà, donc il ne s'agissait pas de compter, mais il s'agissait de vérifier la validité des votes qui avait été compté. Mais là, évidemment, tous de cœur ont annoncé que ben voilà, l'audit qu'ils avaient tant décrié d'ailleurs, et tant dénigré, subitement il devenait intéressant parce qu'il leur permettait faussement de dire qu'il n'y avait rien à voir, qu'il fallait circuler et qu'il ne faisait que confirmer.
On joue sur les mots. Recomptage avec régularité des votes, bien évidemment.
Donc voyons voir ce que ça va donner. Bon, c'est maintenant entre les mains du procureur général de l'Arizona. On verra s'il va se saisir de ces différentes irrégularités pour demander effectivement alors des enquêtes supplémentaires. Et puis je sais que d'autres États sont en train de réfléchir à...
Dont le Wisconsin, par exemple,
la Pennsylvanie et d'autres sont en train de réfléchir à mener des enquêtes et des audits du même ordre. Autre dossier américain qui nous tient à cœur, Isaac. Ouais. Compliqué ce dossier dont on a pu parler.
Mais ceux dont on a parlé ne sont pas particulièrement simples non plus, mais il faut en parler.
Il faut en parler parce que peu de gens en parlent, mais c'est la fameuse enquête de John Durham. Ouais. Alors là, il va falloir faire un tout petit peu de pédagogie et de retour historique, mais rappelons à nos auditeurs que Trump avait été accusé d'être en collusion avec les Russes dans le cadre de la campagne de 2016. Il s'est avéré que toutes ces accusations étaient en fait fabriquées et payées par le Parti démocrate et par la campagne d'Hillary Clinton. On avait parlé à de nombreuses reprises de ce fameux dossier Roger Steele, du nom d'un ancien espion anglais, un anti-Trump de première heure, qui avait été effectivement recruté par un cabinet d'avocats.
Pour produire un dossier à charge.
Pour produire un dossier à charge.
Basé sur rien du tout.
Qui était totalement faux. Et qui a été utilisé effectivement pour accréditer l'idée selon laquelle il était en collusion avec les Russes.
Et pour obtenir des files, pour obtenir
des
écoutes téléphoniques de l'équipe de campagne de Donald Trump.
Et comme ça n'a pas réussi, il a finalement quand même été élu pour utiliser malgré tout encore ces accusations pour demander une enquête qui a été effectivement ordonnée, l'enquête de Robert Mueller, qui a pourri la vie à Donald Trump pendant environ
la moitié de son mandat,
oui,
jusque 2018. Et enquête qui n'a mené strictement à rien, puisque Mueller a déclaré que cette accusation était nul et non avenu.
Alors évidemment, ça a suscité des doutes quant à la raison pour laquelle cette enquête avait même été demandée dès le départ. D'où venaient ces fausses accusations ? C'est à partir de là que William Barr, le ministre de la Justice de Donald Trump, a lui-même mis en place un enquêteur spécial, du nom de John Durham, qui est en train d'enquêter sur l'origine même de ces fabrications et de ces fausses accusations dont a été victime Donald Trump. Il a déjà fait une première inculpation il y a quelques mois d'un dénommé Clive Kleinsmith, qui est un avocat du FBI, qui a lui carrément modifié des informations qui permettaient effectivement, à travers cette modification, de lancer des écoutes sur l'équipe de campagne de Donald Trump. Mais maintenant, il vient d'inculper un autre personnage, un avocat qui s'appelle Sussman,
ouais,
qui travaille pour l'un des cabinets les plus connus aux États-Unis, Perkins Coie, qui était également le cabinet qui avait été sélectionné par Hillary Clinton
par le DNC
juridique,
absolument,
pour la campagne de 2016. Et pourquoi a-t-il été inculpé par John Durham ? Parce que de la même manière que le dossier Steele avait été fabriqué et commandité par le Parti démocrate, il a également demandé à ses équipes d'enquêter sur des relations qui auraient pu exister entre Donald Trump et une banque russe qui s'appelle la Alpha Bank. Pour vérifier s'il n'y avait pas également là potentiellement des malversations ou des collusions entre les Russes et les Américains et l'équipe de Trump. Sa propre équipe lui a expliqué qu'il n'avait rien trouvé de probant qui pouvait effectivement inculper ou nuire à Donald Trump. Il aurait dit, écoutez, si c'est le cas, manipulez l'information de telle manière à ce qu'elle donne l'impression que Trump est effectivement de mèche avec cette banque. Et puis il est allé prendre ce dossier, il est allé frapper à la porte du FBI pour leur dire voilà ce que j'ai découvert comme information sur Trump, en omettant de dire qu'il travaillait pour la campagne d'Hillary Clinton. Donc ce monsieur est maintenant inculpé pour avoir menti au FBI. Donc on voit quand même se mettre en place différentes pièces du puzzle. Là,
oui, c'est intéressant. Enfin, c'est énorme. C'est aussi énorme que ce dont on vient de parler à propos de Maricopa, parce que ici, Maricopa, ça questionne l'élection de 2020. Ce dont on parle, c'est l'implication criminelle de Hillary Clinton, parce que c'est d'elle dont il s'agit. On parle beaucoup de Sussman, on parle beaucoup de l'autre personne qui a déjà été inculpée il y a quelques mois de cela, mais au-dessus de la pyramide, c'est le DNC et c'est la candidate du Parti démocrate, c'est-à-dire Hillary Clinton. Ce serait extraordinaire qu'au bout de cette enquête de John Durham, eh bien, une inculpation soit lancée contre l'ancienne candidate du Parti démocrate, Hillary Clinton, ce qui achèverait de mettre à bas l'Empire Clinton.
Et pas que Hillary Clinton, je pense que tout le leadership du FBI, hein, on pense bien à sûr. James Comey, on pense bien à sûr. Andrew McKay.
Qui est déjà sérieusement compromis.
Ils savaient parfaitement que ces dossiers étaient faux, ils les ont malgré tout utilisés pour essayer de nuire évidemment à Donald Trump.
Tout à fait.
De...
À suivre. Ce sont des dossiers à suivre. On vous entretiendra régulièrement au courant de l'évolution de chacun de ces dossiers parce qu'il permet, il jette une lumière toute particulière sur les deux dernières élections aux États-Unis.
Alors, dernier dossier américain, je crois que c'est le dernier. Peut-être que vous allez me reprendre, peut-être que j'en ai oublié un, mais celui de l'audition des militaires américains.
Il y en a encore un prêt.
Il y en a peut-être un prêt.
Voilà.
Mais en tout cas, le chef d'état-major, le ministre de la Défense, donc Milley, Lloyd Austin,
un autre général, McKenzie.
Et McKenzie, spécifiquement responsable des opérations en Afghanistan, ont été auditionnés à la fois par le Sénat, la commission des armées du Sénat, et la commission équivalente dans la Chambre basse, pour effectivement s'expliquer de cette débâcle afghane. Et ce qui est surtout intéressant dans leur audition, c'est qu'ils ont été en totale contradiction avec ce qu'avait communiqué Joe Biden au préalable. Il avait dit que...
Personne
ne m'avait dit qu'il fallait peut-être garder 2500 à 4500.
Oui, et personne ne m'a dit que l'armée afghane allait s'effondrer aussi rapidement.
Que personne ne m'a dit qu'il fallait conserver un minimum de troupes.
Et que personne ne m'a dit qu'il fallait garder les 2500 hommes qui étaient en place en Afghanistan. Or, les auditions de ces trois personnages, Milley, Austin et McKenzie, ont toutes été concordantes pour dire qu'on a prévenu le président qu'il fallait laisser les 2500 hommes pour permettre un retrait ordonné des États-Unis d'Afghanistan, des civils, ainsi que du matériel, je rappelle, 85 milliards de dollars de matériel de pointe militaire ont été abandonnés sur place. Et donc ça contredit frontalement les propos tenus par Joe Biden. Et là aussi, cette affaire-là qui devrait faire un scandale énorme, parce qu'on se rappellera que, on vient de le dire, le président a dit « personne ne m'a averti qu'il fallait laisser les 2500 hommes ». Et lorsqu'il était interrogé par Stephanopoulos sur une chaîne de télévision, il répond de façon tout à fait claire « personne ne m'a rien dit ». Et les trois hommes, eux, disent exactement le contraire.
Et ce n'est pas le seul mensonge dans cette interview, puisque lorsque Stephanopoulos lui avait posé la question de savoir si les Américains resteraient jusqu'à ce que le dernier Américain soit évacué de l'Afghanistan, il avait répondu par l'affirmative, effectivement, parce qu'il y avait d'abord cette date butoir là, du 30 août. Et quand Stephanopoulos l'interroge sur la question de savoir si, oui, mais si tous les Américains n'ont pas été évacués...
On restera jusqu'au dernier. Et résultat, on en a laissé plusieurs centaines derrière les lignes ennemies.
Et qui sont
autant d'otages potentiels.
Et là, d'ailleurs, aussi, les militaires sont en parfaite contradiction aussi avec Anthony Blinken, qui avait été lui auditionné quelques jours auparavant, et qui avait dit qu'on ne lui avait jamais suggéré qu'il fallait évacuer les civils à partir du mois d'avril. Donc c'est exactement ce que les militaires avaient suggéré au département d'État.
Mais rien que cette affaire-là devrait fragiliser considérablement la Maison-Blanche et frapper son locataire de nullité. Je veux dire, c'était un véritable scandale, cette affaire. Un scandale qui s'ajoute au scandale de l'énergie. Déjà, le pays était énergétiquement indépendant sous Trump, il a cessé de l'être depuis la fermeture de l'oléoduc qui part de l'Alberta jusqu'au golfe du Mexique, le Keystone, l'inflation qui montre son vilain museau. On n'a pas connu un taux d'inflation aussi élevé depuis, je crois, 25 ou 27 ans aux États-Unis. L'Afghanistan, on le disait, l'Iran et cette recherche désespérée des Américains d'avoir les Iraniens qui accepteraient, qui consentiraient de renégocier ou de rentrer ou de réactiver le JCPOA de 2015. La gestion catastrophique de la frontière. C'est à se demander d'ailleurs à ce sujet si c'est une gestion catastrophique ou si ce n'est pas exactement ce qu'ils veulent. Il faut savoir qu'il y a 200 000 personnes illégaux qui rentrent tous les mois aux États-Unis et que ce mois d'octobre, on en attend 400 000. C'est-à-dire que le but poursuivi par cette administration est un pays sans frontières, c'est-à-dire un pays sans souveraineté. Un pays sans souveraineté, pourquoi ? Parce que la souveraineté, le patriotisme, la nation, c'est quelque chose d'immoral. Et donc la gestion des frontières est parfaitement immorale, ce qui laisse penser qu'en réalité, ce qui se passe, c'est exactement ce que cette administration souhaite. Quant à la gestion du Covid, elle est aussi critiquable que celle de Donald Trump, qui, lui au moins, pouvait objecter. Ben, moi, je viens d'arriver à un moment où cette pandémie s'est déclarée, où tout le monde était parfaitement ignorant de ses tenants et aboutissants. Aujourd'hui, on en sait beaucoup plus. Mais il est mort aujourd'hui autant d'Américains depuis l'élection de Joe Biden qu'il en était mort jusqu'à la défaite de Donald Trump.
Tout à fait. Écoutez, c'est quoi le dossier américain qui manque, Isaac ?
Eh bien, c'est le milliard de dollars en faveur de l'Iron Dome israélien qui a été voté par une très très large majorité de 420 représentants contre 9 seulement. Mais il faut maintenant un accord du Sénat. Et là, c'est un sénateur républicain qui s'appelle Rand Paul, qui s'est souvent distingué d'ailleurs sur les questions d'aide américaine aux pays étrangers, qui empêche cette aide de 1 milliard de dollars d'être tout de suite transféré au bénéfice de l'État juif, au motif que la loi est une loi d'urgence et qu'elle contrevient aux procédures traditionnelles. De plus, dit Rand Paul, la loi qui est proposée pour le financement de l'Iron Dome israélien est couplée avec une promesse d'aide aux Afghans. Et Rand Paul dit qu'il faudrait financer le don qu'on fait à l'État d'Israël de 1 milliard de dollars en le prenant sur ce qu'on se propose de donner à l'Afghanistan, parce qu'il n'y a pas de raison de financer l'Afghanistan. Résultat des courses, pour faire bref, eh bien cette aide que l'on promettait extrêmement rapide, pour l'instant est bloquée pour des raisons techniques. À suivre aussi.
Bon, elle sera sûrement débloquée, je pense.
Oui, sans
que la freiner, je pense pas qu'il puisse en marcher.
Sans aucun doute.
Et rappelons, avant qu'on fasse notre petite intermède musical là, avec Clément, aussi que parmi les 9 qui avaient voté contre à la Chambre basse, ne s'y trouvait pas AOC, la fameuse Alexandra Ocasio-Cortez, qui, prise de d'un certain doute, a finalement décidé de s'abstenir.
Une crise de larmes.
Elle a eu une crise de larmes à la fin de l'abstention.
Pathétique dans la chambre, absolument. Elle n'a pas pu résister à cela. Voilà. Nous n'avons pas résisté au plaisir d'entendre une nouvelle création de notre ami Clément Villansen.
Cette nouvelle composition. La semaine dernière, elle avait des intonations un peu asiatiques. Cette semaine, un peu plus cowboy, je trouve, un peu plus Far West.
On est passé du Far West. Far West intergalactique, je dirais. Intergalactique.
Intergalactique, tout à fait. En tout cas, très agréable. Merci, Clément. Bon, alors nous avons traité tous les dossiers américains. Revenons de notre côté de l'Atlantique. Il y a trois pays qui nous intéressent. Parlons d'abord de la Grande-Bretagne.
Oui.
Il y avait le congrès du Labour Party, du Parti Socialiste Anglais. Ouais. C'est combien ce parti a été miné par des problèmes d'antisémitisme lorsque Jeremy Corbyn en était à sa tête, avant qu'il n'en soit chassé suite à ses résultats lamentables aux dernières élections législatives anglaises. Et il a été remplacé à la tête du parti par un dénommé Keith Starmer. Donc le congrès de ce parti a toujours lieu, je pense, ou peut-être qu'il vient de se terminer.
Oui, c'est
week-end.
Terminé,
à Bristol,
oui.
Probablement, ou à Brighton, je ne sais plus, dans une ville anglaise en tout cas. Et dans le cadre de ce congrès, ils ont jugé utile, ce parti, de voter une loi, pas une loi, pardon, une résolution.
Non contraignante.
Non contraignante, puisque c'est plutôt en session plénière que cette résolution a été adoptée. Mais qui, encore une fois, utilise ce fameux mot d'apartheid. Hein, on en a parlé il y a quelques instants aux États-Unis avec Kamala Harris. Maintenant, c'est ce parti socialiste anglais qui a voté donc, cette résolution condamnant Israël pour crime d'apartheid.
Oui, c'est exactement ça. Alors, ce n'est pas contraignant, je le précise, mais ça donne la température des humeurs au sein du Parti travailliste, qui, je le rappelle, est un parti de gouvernement, c'est un parti d'alternance. C'est une fois les conservateurs, c'est une autre fois les travaillistes. Alors, si Starmer, qui est le nouveau secrétaire général du Parti travailliste, a fait un bon travail pour dénoncer la veine antisémite qui avait pollué les rangs du Parti travailliste du temps de la gestion de Jeremy Corbyn, il n'en est pas de même pour le regard qui pèse sur Israël, parce que l'accusation d'apartheid n'a rien d'autre qu'une accusation d'antisémitisme. Mais on voit qu'après le mot d'occupation, on l'a déjà fait ce commentaire ici dans cette émission, après le mot d'occupation, qu'on a déjà solidement installé et enraciné dans les têtes d'à peu près tout le monde, puisque personne ne vient contester ou n'oserait contester le fait qu'Israël occupe la Judée-Samarie. Et certains même vont jusqu'à dire qu'Israël continue d'occuper la bande de Gaza alors qu'il n'y a pas un seul Israélien ou un seul Juif qui s'y trouve. Mais donc, personne ne viendrait contester l'idée ou l'accusation qu'Israël est bien une puissance occupante et de considérer que les territoires de Judée-Samarie, erronément appelés Cisjordanie, sont des territoires occupés alors qu'ils sont en réalité des territoires disputés puisque les revendications des Juifs et d'Israël sur la Judée-Samarie sont au moins, et c'est une litote, aussi solide que celle des Arabes qu'on appelle aujourd'hui Palestiniens. Mais ça va plus loin aujourd'hui. Après avoir installé ce mot d'occupation dans l'esprit des gens, il s'agit petit à petit d'installer un mot encore plus chargé. C'est le mot d'apartheid. Et le Parti travailliste y contribue. Et c'est pour ça qu'il était important de signaler ce qui s'est passé aux États-Unis dans cette université George Mason, lorsque cette étudiante a interpellé la vice-présidente pour accuser Israël d'apartheid, de génocide et d'épuration ethnique. Donc on voit que c'est une entreprise concerté, cette idée-là d'installer l'apartheid, le mot apartheid dans l'esprit des gens. C'est une guerre psychologique, c'est une guerre sémantique qui est livrée et qui est orchestrée par qui ? Par l'autorité palestinienne. C'est elle, naturellement, qui est à la manœuvre. Et ça, c'est particulièrement inquiétant parce qu'on se rappellera la résolution 3379, si ma mémoire ne me trompe pas, de 1975 de l'Assemblée générale des Nations unies, qui dressait une équation absolument infâme entre sionisme et racisme. Et c'est seulement en 1991, soit 16 ans plus tard, que cette résolution a été frappée de nullité. Donc il a fallu 16 ans pour qu'on revienne sur cette équation infamante. Ça n'a pas empêché Durban, en 2001, de répéter cette accusation et de l'installer dans tous les mouvements de gauche, d'extrême gauche et plus ou moins proche des mouvements terroristes moyen-orientaux. Et aujourd'hui, on voit que, eh bien, cette accusation, elle prend de plus en plus racine dans les pays occidentaux. On ne se satisfait plus de l'accusation d'occupation. Il faut aller plus loin et on se saisit donc de ce mot, qui est un mot extraordinairement dévastateur, évidemment, pour la légitimité de l'État juif.
Tout à fait. Et je pense que ce n'est pas uniquement l'autorité palestinienne qui est à la manœuvre. Je crois que vous le donnez trop grand crédit. Je pense que vous prenez, par exemple, ce parti socialiste anglais, le Labour Party. Je crois que Keir Starmer a encore fort à faire à se débarrasser au sein de ce parti, de toute une frange de ce parti qui est radicalement anti-israélienne, évidemment, et pour beaucoup d'entre eux, antisémite, avec Jeremy Corbyn, qui est toujours, même s'il n'est plus à la tête du parti, à la manœuvre.
Bien sûr. Mais quand je dis c'est l'autorité palestinienne qui est à la manœuvre, exactement comme elle est à la manœuvre dans cette guerre qu'elle livre à l'État juif sur la légitimité de l'État juif. Alors, il est évident que plus personne ne peut rêver dans ses rêves les plus humides de se débarrasser militairement d'Israël. Donc, le combat a changé d'âme. Il a changé de terrain. On ne se bat plus sur un champ de bataille. On se bat désormais dans les forats, dans les forums. On se bat également à la télévision. On se bat dans les auditoires d'université. C'est là que se livre le combat. Et le combat, c'est désormais un combat sur la légitimité de l'État d'Israël. À partir du moment où vous accusez l'État d'Israël ou n'importe quel État de pratiquer un système d'apartheid, il est frappé d'illégitimité. Il doit disparaître ou il doit s'amender suffisamment pour qu'il ne reste rien de l'État juif dans sa version, dans son acception actuelle. C'est ça qui est à l'œuvre. De la même manière que l'autorité palestinienne mène une guerre juridique contre l'État d'Israël, puisqu'il a incriminé sans être un État souverain d'ailleurs, il a tiré par la manche la Cour pénale internationale pour traduire en justice, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, l'État d'Israël depuis 2014. Donc on voit que c'est une guerre qui est à l'œuvre, et pendant ce temps, Mahmoud Abbas, tout Chatmit, il reçoit Benny Gantz qui vient lui rendre visite et... Hier, il a reçu une délégation du Meretz, le parti d'extrême gauche, trois personnalités du parti d'extrême gauche qui ont été rendre visite à Abbas, qui lui invite les autres ministres de la coalition israélienne à venir lui rendre visite, de manière à isoler un peu plus les deux poids lourds de cette coalition, deux poids lourds si je puis dire, Bennett qui se refuse à avoir le moindre contact avec Mahmoud Abbas parce que quelqu'un qui attaque Israël au cœur de la Cour pénale internationale ne mérite pas son attention, et même chose pour Yair Lapid qui n'entend pas non plus rencontrer Mahmoud Abbas parce que les conditions ne sont pas réunies pour une telle rencontre.
Alors, une bonne nouvelle quand même émane de ce congrès du Parti Socialiste Anglais, c'est qu'effectivement, sur ce vote-là, la majorité anti-israélienne l'a emporté, mais sur un autre vote, oui, qui pour le coup, lui, est contraignant, qui concerne la procédure de gestion des plaintes en antisémitisme. On sait que c'était un des graves reproches qui avait été adressé à ce parti par cette commission anglaise, là, qui est chargée de lutter contre l'antisémitisme et toute forme de racisme en Angleterre. Elle avait donc pointé du doigt ce mécanisme interne qui était censé, de manière objective, traiter les plaintes en antisémitisme, alors que une grosse majorité d'entre elles étaient évidemment mises de côté. Et donc, une grande majorité, je crois, de l'entour de 75% des votants, ont accepté de modifier radicalement cette procédure de gestion des plaintes, pour que ce soit maintenant une commission de 12 personnes totalement indépendantes du parti, qui soit chargée de les administrer et de les instruire.
Mais on voit que c'est un seul et même combat. Je veux dire, combattre l'antisémitisme, c'est une bonne chose. Mais combattre l'antisionisme, celui qui questionne la légitimité de l'État juif, sous quelque forme que ce soit, sous quelque forme que puisse prendre cette contestation, ce questionnement sur la légitimité de l'État d'Israël, c'est une forme d'antisémitisme. Et il faut décidément changer de logiciel. Il faut comprendre désormais que lorsqu'on accuse Israël d'apartheid, on est en plein dans le registre de l'antisémitisme. Rien d'autre que cela.
Parlons un petit peu d'Allemagne. Oui. Nous mentionnions les sondages la semaine dernière. Les élections ont eu lieu et les sondages n'étaient pas extrêmement éloignés de la vérité, hein, puisque la CDU-CSU
a essuyé
ça. 24% des voix, alors qu'elle en avait fait 33% aux élections précédentes. Le SPD de Olaf Scholz est passé, lui, de 20,5%
plus 5
à 25,7%. Tout à fait. Les Verts, eux, ont progressé de 8,9 à 14,8, même si certains sondages, à certains moments, l'ont donné 25% des voix. Et le FPD, relativement stable, est passé de 10,7 à 11,5.
Le FPD, hein.
Le FPD,
oui.
Le Parti libéral.
Oui, j'avais cru comprendre que vous disiez le SPD.
Donc, le SPD,
le FDP.
De 20,5 à 25,7.
Voilà, c'est ça.
Et les partis extrêmes, eux, pour le coup, et c'est plutôt une bonne nouvelle, ont perdu des voix, puisque le AfD, donc le parti d'extrême droite,
à 10% au lieu de 13.
De 12,6 à 10,3. Et que de Linke, donc le parti
d'extrême gauche,
lui, en fait, n'a même pas franchi la barre des 5%, puisqu'il est passé de 8,9 à 4,9%. Donc voilà un petit peu le résultat. Donc, clairement, un très très mauvais résultat pour la CSU-CDU, puisque c'est une grosse perte en voix. Je crois qu'ils ont perdu 6 à 7 millions de voix. Et qu'ils ne sont même pas en tête, puisqu'ils sont que le numéro 2. C'est la première fois que ça leur arrive depuis très très longtemps.
Ah, c'est une gifle magistrale sur la CDU-CSU. On n'a pas connu un résultat aussi désastreux depuis qu'on a constitué la République fédérale d'Allemagne. Donc c'est pour le départ d'Angela Merkel, qui, soit dit en passant, se rendra en Israël dimanche. C'est pas la manière dont elle souhaitait quitter le pouvoir, parce qu'elle avait adoubé son dauphin, Armin Laschet, qui s'est révélé être aussi convaincant sur une estrade de campagne électorale qu'un François Mitterrand, qu'un François Hollande, par exemple. Donc c'est vraiment un choix absolument désastreux, alors qu'il y avait à la CSU un candidat qui était infiniment plus tranchant et qui aurait pu, en tout cas, limiter la casse et permettre à la CDU-CSU de rester victorieuse et de prétendre à la formation de la coalition avec un de ses membres à la tête du gouvernement, donc comme chancelier. Les choses laissent penser que maintenant on va avoir un chancelier issu du SPD, donc Olaf Scholz, celui qui a remporté les élections, avec probablement une coalition, comment est-ce qu'on appelle, feu de signalisation,
oui.
Noir, jaune, rouge, noir pour le FDP, le rouge pour le SPD, et le jaune, j'ai dû en inverser un. Le vert, c'est en tout cas pour les verts. Voilà, exactement. Ça devrait suffire, cette coalition, pour franchir, pour pouvoir avoir une majorité au bout de Stag. Et donc, un travail d'opposition pour la CDU-CSU. Ça pourrait changer également le regard de l'Allemagne et la manière dont l'Allemagne va se comporter à l'égard de l'État d'Israël, parce que l'Allemagne était un soutien pratiquement permanent d'Israël, tout le temps que c'était la CDU-CSU qui dirigeait le pays. Aujourd'hui, les choses pourraient changer. On y reviendra le cas échéant, bien sûr, et surtout lorsque la coalition sera formée, si tant est qu'elle l'est.
Oui, tout à fait, parce que la coalition que vous mentionnez est la plus probable.
Oui, mais ce n'est pas certain du tout. Hein.
Elle est loin d'être en place, parce que le FPD est idéologiquement nettement plus proche de la CDU-CSU.
Oui.
Les Verts, sont bien évidemment idéologiquement plus proches du SPD. Et le FPD et les Verts sont plutôt très éloignés oui. les uns des autres, que ce soit en matière d'armement militaire, de budget militaire. On sait que le FPD, lui, veut respecter les fameux 2% réclamés depuis longtemps par les Américains et particulièrement.
Ce qui n'est pas le cas du SPD, bien sûr.
Ce n'est pas du tout le cas des Verts. On sait qu'évidemment, sur les questions d'environnement, ben, les Verts, eux, ils ont tout un programme qui n'est pas particulièrement adopté par le FPD. En matière de fiscalité, on sait que les Verts veulent financer effectivement leur programme environnemental par des hausses spectaculaires d'impôts que le FPD, évidemment, ne veut absolument pas voir apparaître. Donc ça ne va pas être si simple.
Non, je ne dis pas que ça va être simple, mais on a vu en Israël, par exemple, que des partis que tout oppose ont réussi à s'entendre, ne fût-ce que pour mettre dehors un adversaire commun, comme Benjamin Netanyahou. Ici, il s'agirait de mettre un adversaire commun hors jeu, c'est-à-dire la CDU-CSU. Maintenant, il n'est pas impossible non plus que s'il y a échec de négociation entre les partis qu'on vient d'énumérer, eh bien on en revienne à une grosse coalition. Mais ça ne suffira pas, puisque vous faites 25 et...
Il en faut trois.
Il faudra donc le SPD, le CDU-CSU, plus le parti probablement des libéraux, pour pouvoir franchir le seuil de la majorité. Donc les choses sont ouvertes, on y reviendra au moment où cette coalition sera constituée.
Tout à fait. Alors maintenant parlons un peu de la France. Parce que là, les élections présidentielles ne sont pas très éloignées. Elles auront lieu, je crois, avril-mai 2022. Au mois de mai 2022. Est-ce qu'elles sont combinées avec les élections législatives
oui.
ou pas aussi ? Donc il y aura deux grandes élections, législatives et présidentielles. Et il y a ce que j'appelle, moi, un OPNI qui vient d'apparaître. Vous savez, on parle des ovnis.
Oui, oui.
Là, on a un OPNI.
Oui, c'est ça, un objet politique,
non identifié.
De plus en plus identifiable.
De plus en plus identifiable. Tout le monde aura reconnu, évidemment, Éric Zemmour, qui vient mettre son petit ou plutôt gros grain de sable dans la mécanique électorale française, puisqu'on voit que, alors qu'il n'a même pas encore annoncé sa candidature de manière officielle, tous les sondages le donnent avec un électorat de plus en plus important. Le tout dernier sondage en date, je crois, le donnait à 15 ou 16%. Juste au-dessus de Xavier Bertrand, qui est le meilleur candidat, ou le mieux placé pour l'instant pour les Républicains, et juste derrière Marine Le Pen, qui il y a un peu plus d'un mois pointait encore à 28%.
Oui, tout à fait. C'est certain que Éric Zemmour rebat complètement les cartes, si tant est qu'il est candidat à la présidence. Il faudra attendre vraisemblablement le mois de novembre, mais en tout cas, pour l'instant, ce statut de candidat non-candidat, ou de candidat présumé, ou de candidat potentiel, ou de candidat supposé, allez savoir, lui profite. Puisque on se rappelle que dès qu'on a laissé entendre que Zemmour serait peut-être un candidat à la présidentielle, il était crédité de 5% de suffrage dans les sondages et qu'il est aujourd'hui à 15%. Donc laisser ce flou exister lui profite manifestement puisqu'il est, vous le disiez tout à l'heure, 15%, 1% au-dessus de Xavier Bertrand qui représente les plus grandes chances des Républicains. Je ne parle même pas de Valérie Pécresse qui est dans les roses. Et 16% pour Marine Le Pen, c'est-à-dire il est à 1% en dessous de Marine Le Pen. Et il y aura un sondage aujourd'hui où il est peut-être déjà rendu public puisque c'était promis pour 17h. Donc on voit que une personnalité aussi étrangère au monde politique que l'on regardait de façon un peu goguenarde au début, eh bien petit à petit sa petite musique, il l'a fait entendre et en réalité Éric Zemmour, le mot Zemmour, c'est ce qu'on entend le plus désormais. Il a complètement évacué pratiquement le Covid des informations. C'est Zemmour ici, c'est Zemmour là-bas, c'est Zemmour absolument partout. Et surtout, il a imposé une question dans le débat électoral à laquelle tout le monde devra répondre. Chacun devra se positionner par rapport à la question de l'identité, de la souveraineté, de l'immigration, de la France, de la place de la France dans le monde, de sa souveraineté, de ce grand remplacement ou de ce grand basculement de la population qu'il invoque à chaque fois, à chacune de ses interventions, pour dire que sous nos yeux, la France est en train de changer de visage et qu'il est minimum une et que si nous n'intervenons pas dans quelques années, nous nous réveillerons dans un pays dont le visage aura irrémédiablement changé. Et donc la question de l'identité, de la souveraineté, de l'immigration est au centre de la campagne. Et on a vu d'ailleurs le président d'exercice, Macron, y aller de certaines déclarations qui laissent penser que eh bien, cette musique zémourienne s'est également insinuée dans la parole présidentielle, puisqu'il a durci les conditions pour l'obtention de visa des ressortissants du Maghreb, de la Tunisie, du Maroc et de l'Algérie. Et il a eu cette déclaration assez stupéfiante dans la bouche de Macron concernant l'Algérie, où il dit que l'Algérie, il a déclaré ça ce week-end, que l'Algérie vit sur une rente mémorielle née d'une étude de l'histoire de la guerre d'Algérie totalement erronée, qui permet à une clique de se maintenir au pouvoir depuis 60 ans et qui prend en otage la population algérienne. Ce sont des propos qui sont en complète opposition avec ceux qu'il tenait en 2017, lorsqu'il déclarait que la colonisation de l'Algérie par la France ressortissait au registre du crime contre l'humanité, rien moins que cela. Donc on voit que eh bien, Macron essaye de se prémunir de cette offensive sur sa droite, en droitisant son discours, lié directement ou indirectement à l'immigration. Ce qui veut dire que eh bien, Zemmour aura réussi, de toutes les façons, jusqu'à aujourd'hui, il a réussi son pari. Il est la personnalité, il tient le discours autour duquel tourne toute la campagne électorale jusqu'à présent. Alors, je ne sais pas, il y a un effet Zemmour pour l'instant. Combien de temps va-t-il durer? Est-ce qu'il va cesser? En tout cas, il mène bien, pour un homme étranger au sérail politique, il mène bien sa communication, parce que son silence quant à sa déclaration de candidature, il l'a fait tarder volontairement, parce qu'il sait que ça lui profite. Et à chacune de ses apparitions, eh bien, il est salué avec une foule de plus en plus nombreuse et de plus en plus séduite par son discours.
Tout à fait. Bon, les enseignements, un deuxième enseignement intéressant dans les sondages, c'est l'état de la gauche française. Quand on fait le comptage des voix de Jean-Luc Mélenchon, de Hidalgo, la représentante du Parti Socialiste, et puis de Yannick Jadot, qui a difficilement remporté la primaire écologique, je pense qu'on arrive aux alentours de 25%, au grand maximum.
Oui, oui, tout à fait.
Quand on pense au Parti Socialiste d'antan, qui lui seul obtenait parfois 32, 33, 34% des voix, alors collectivement, ces trois partis ne font plus que 25%, avec un Parti Socialiste à 5-6%.
L'effet Macron est considérable sur les chiffres que vous rapportez, parce qu'il a littéralement vampirisé sur sa gauche et sur sa droite. Vous le voyez dans l'étiolement des votes sur la gauche, vous venez de l'illustrer, mais sur la droite, c'est pareil. Hein. Vous avez peut-être la gauche la plus bête du monde en France, mais vous avez également la droite la plus bête du monde, parce qu'elle est incapable de s'entendre. Vous avez des voix multiples à droite. Et c'est la raison pour laquelle la candidature de Zemmour, si elle se matérialise, si elle se confirme, va rendre cette campagne particulièrement passionnante. Passionnante pourquoi ? Parce que pour la première fois, enfin, on va discuter de l'avenir de l'identité d'un pays. Qu'est-ce que c'est que l'identité d'un pays ? On ne va pas parler seulement de construction européenne, on ne va pas parler seulement de droits de l'homme, on va pas parler de... On va parler de choses qui intéressent tous les Français et qui n'en ont pas eu conscience parce que le discours dont on les berçait était totalement silencieux sur cette question-là, sur la question de la mondialisation. On a présenté ça comme si c'était une fatalité. Et aujourd'hui, Zemmour arrive dans ce débat politique comme un chien dans un jeu de qui, et il interroge le devenir de la France. Et pour ce faire, il prend des chiffres qui sont incontestables, puisque cela vient de France Stratégie. France Stratégie, c'est une organisation qui est liée au bureau du Premier ministre et qui montre combien démographiquement, le visage de la France est en train de changer, pas seulement à Paris et dans la couronne parisienne, dans le 93, comme on dit, mais également dans les villes moyennes, comme Rennes, comme Limoges, où vous avez une proportion grandissante d'enfants entre 0 et 18 ans qui sont issus d'un foyer où le père et la mère sont tous deux étrangers non européens. Et un chiffre qui est vérifié par, qui est cité par ce rapport de France Stratégie, qui avance le chiffre de 36,4% dans l'Île-de-France, avec un chiffre qui atteint les 75% dans la couronne parisienne. Donc on voit que sous les yeux des Français, eh bien, la France est en train de changer de visage, et Zemmour interroge ce changement. Est-il inéluctable? Est-ce qu'il y a moyen de le changer? Lui, il dit oui, mais il faut absolument changer de cap.
Et dernière observation, effectivement, c'est concernant Marine Le Pen. Toute la difficulté qu'elle a, elle a tenté cette stratégie de dédiabolisation.
Oui,
qu'elle s'était quand même
ça
bien
ne
rendu
réussit
compte,
pas.
Elle s'était bien rendu compte que à ne récolter que les votes protestataires, elle n'arriverait probablement jamais au pouvoir. Donc elle a, depuis quelques années, effectivement, viré un peu plus vers le centre. Mais elle a tellement viré au centre, si je puis dire, que les gens, maintenant, ont du mal à comprendre l'écart qu'il y aurait entre elles. Et effectivement, j'exagère un tout petit peu, mais enfin, un vote pour les Républicains. Et donc, elle s'est fait, finalement, déborder par sa droite.
Elle s'est fait déborder par sa droite. Et puis, dans son désir de se gagner un certificat de cache-route et de fréquentabilité, elle a tellement mis d'eau dans son vin qu'on goûte surtout l'eau, désormais. Et que ce discours identitaire, qui était le cœur du projet du Rassemblement national, eh bien, il est désormais inaudible. Et également des changements de pied quant à la construction européenne. On se rappellera qu'en 17, elle avait un regard très critique sur la construction européenne et le désir de la France de quitter l'Europe. Aujourd'hui, elle dit qu'il ne faut pas quitter l'Europe. Alors que, de l'autre côté, Zemmour, il est extrêmement cohérent. Il a fait, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ça n'a rien à voir ici. Et notre rôle n'est pas de dire si c'est juste ou si c'est pas juste. Notre rôle est ici d'éclairer ce qui se passe aujourd'hui dans cette campagne qui risque d'être extrêmement intéressante, passionnante. Et du reste, le débat qui a opposé Mélenchon à Éric Zemmour était particulièrement intéressant parce que c'était deux personnalités qui manient avec bonheur la langue française, avec quelques connaissances assez solides sur l'histoire de France. Donc c'était un plaisir. Alors peut-être qu'on va retrouver du plaisir à suivre ces élections françaises, en particulier si Éric Zemmour confirme sa participation en tant que candidat.
Isaac, il nous reste deux petites minutes.
Oui.
Alors, peut-être un coup de gueule, je crois qu'il y en a un qui vous tient à cœur. C'est celui, dans le cadre d'une réunion, là, je crois, à Genève.
Ah oui.
Du comité...
Du Haut-Commissariat aux réfugiés. Du Haut-Commissariat aux réfugiés.
Exactement ce qui s'est passé.
UN Watch, qui est dirigé par Hillel Neuer, voulait illustrer par des témoignages enregistrés des sorties antisémites d'une centaine d'enseignants qui sont rétribués par l'UNRWA, c'est-à-dire cette agence de l'ONU qui est entièrement dévouée aux réfugiés ou aux dits réfugiés palestiniens, et qui voulait illustrer par les témoignages de ces enseignants de sorties outrancièrement antisémite. Eh bien, il a été recadré, il a été interdit de parole, c'est-à-dire que la présidente de séance l'a privé de parole, lui a coupé le micro et attribué la parole à une organisation qui est, elle, liée intimement au Hamas.
Bien sûr, ce Isaac, je pense que ce sera notre mot de
conclusion. Notre mot de la fin avant notre rendez-vous de la semaine prochaine.
Tout à fait. Et on passe la parole à Asselet.
Voilà. Au revoir et bonne soirée.
Au revoir et bonsoir à tout le monde.
La valeur ajoutée d'un payroll advisor personnel. Rendez-vous sur groupes.be. Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.
Vous êtes une petite ou une grande entreprise? Vous êtes une association? Vous désirez faire de la publicité sur notre antenne ou nos réseaux sociaux afin d'accroître votre visibilité?
Vous avez dès lors votre place sur Radio Judaïka. Appelez-nous au 02 648 18 59 ou envoyez-nous un email à secrétariat@radiojudaïka.be. Nous étudierons ensemble votre budget afin de trouver la meilleure solution.
Radio Judaïka, depuis 40 ans, la radio de la communauté juive et de ses amis.
On l'attendait depuis si longtemps. Enfin, un vrai boucher cachère à Bruxelles. Venez le rencontrer tous les jours chez Jeltov, où il vous préparera vos morceaux choisis. Vous découvrirez également le plus grand choix de viande, charcuterie, pain, pâtisserie, produits laitiers et vins cachères de la capitale. Les commandes sont souhaitées. Toute l'équipe vous souhaite Shana Tova ou Metuka et vous attend au 381 rue van der Kinder à Uccle. N'oubliez pas vos commandes de plats et salades pour les fêtes. 02 346 87 00 02 346 87 00
Radio Judaïka vous propose son nouveau spectacle L'incroyable Germaine, une comédie de Gabriel Villa avec Jean-Pierre Benahim, Gabriel Villa et Brigitte Gnouva. Ludovic Masséna est un architecte de renom à Paris et a travaillé toute la nuit pour finir le projet de sa vie. Il n'aspire qu'à une seule chose, dormir. Quand soudain, méfiez-vous, cela peut vous arriver à vous aussi. N'ouvrez jamais votre porte à un inconnu. Il peut bouleverser votre vie. Quiproquo, rire en cascade, mots en équilibre à déguster absolument le 7 octobre 2021 à 20h au Centre culturel d'Auderghem. Plus d'informations et réservations sur la page Facebook de Radio Judaïka et sur le site radiojudaïka.be.
Participez à